skinny love just last the year. Poor little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Passeurs de mémoire. Nous sommes Lise et Zoé et aujourd'hui nous allons vous parler du procès de Klaus Barbie.
Il est 13h04 ce lundi 11 mai 87. Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, pénètre dans le prétoir. Plus de 40 ans après la guerre, il répond devant une cour d'assises de crimes contre l'humanité. Procès ordinaire sur le plan pénal, extraordinaire par la qualité de l'accusé et les passions qu'il réveille.
Nous sommes le 11 mai 1987. Un vieil homme, ses lunettes sur le nez, balaye l'assistance de son regard sombre. La foule, présente dans la salle, d'ordinaire bruyante, se tait et le vieillard prend la parole. C'était la guerre et la guerre, c'est fini. Aucun bruit, aucun murmure ne suit cette phrase. Ce matin-là débute l'un des plus grands procès de l'histoire de France. L'homme qui se tient à la barre se nomme Nicolas Klaus Barbie. Ancien chef de la Gestapo à Lyon entre 1943 et 1944, il a dirigé la répression nazie dans une ville alors considérée comme un haut lieu de la résistance française. À Lyon, la guerre ne se vivait pas au front, mais dans les caves de la Gestapo. Officier SS allemand, tristement surnommé le boucher de Lyon, il est engagé très tôt dans le Parti National Socialiste et gravit rapidement les échelons de la SS et du service de sécurité, le SD. Formé à la répression et au contre-espionnage, il est affecté dans plusieurs territoires occupés, avant de devenir, en 1942, chef de la Gestapo à Lyon. C'est là que sa carrière atteint son sommet, en étant directement lié à la traque de la résistance et à la mise en œuvre de la politique de persécution nazie. Klaus Barbie est tenu pour responsable de l'exécution de plus de 4000 personnes et de la déportation de 7500 juifs, dont la majorité furent assassinés à Auschwitz. Lyon possédait de nombreux réseaux clandestins qui transmettaient des informations, cachaient des juifs et organisaient des sabotages. Malgré la répression menée par Klaus Barbie, les résistants lyonnais continuaient à lutter avec courage, préparant la libération du pays.
Et concrètement, de quoi il est accusé? Car on connaît cet homme, mais pas ce qu'il a fait.
Eh bien, parmi les crimes qui lui sont reprochés figurent notamment l'arrestation et la torture de Jean Moulin en 1943, ainsi que la rafle des enfants juifs de la colonie d'Izieux, arrêtés, déportés, puis exterminés à Auschwitz.
Klaus Barbie, un homme dont le nom est associé à la machine de guerre hitlérienne. Novembre 42, il prend la tête de la Gestapo lyonnaise et entreprend immédiatement la chasse aux résistants. Six mois après, il arrête Jean Moulin. Ici, dans les caves de l'école de santé militaire, les locaux de la Gestapo lyonnaise, plus de 14 000 hommes, femmes et enfants passèrent entre ses mains. Il est responsable de la mort de plus de 4 000 personnes, de la déportation de 7 500 juifs.
Après la guerre, Klaus Barbie échappe pourtant à la justice. Il travaille un temps pour les services de renseignement américains, dans le contexte de la guerre froide, avant de disparaître en Amérique du Sud. Pendant plus de 30 ans, il vit en Bolivie sous le nom de Klaus Altman, obtient la nationalité bolivienne en 1957 et conseille plusieurs régimes militaires successifs. Une traque pour le retrouver se met alors en place. Sa piste est notamment suivie avec acharnement par Beat et Serge Klarsfield, qui croisent archives et témoignages d'anciens résistants et documents administratifs pour prouver que Altman et Barbie ne font qu'un. Les Klarsfield se rendent sur place, photographient sa maison, interrogent le voisinage, récupèrent des signatures, des numéros de téléphone, des traces administratives qui correspondent mot pour mot au passé de Barbie. Ils montent des opérations médiatiques, collent des affiches dénonçant sa vraie identité, tentent même une arrestation symbolique en 1972 qui échoue et leur vaut une expulsion du pays. La Bolivie refuse de l'extrader. Le tournant arrive au début des années 1980 avec un changement de régime. Barbie perd ses protections, est arrêté, puis expulsé vers la France en 1983 où débute l'instruction de ses crimes.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel symbole, le criminel de guerre nazi Klaus Barbie, expulsé dans la nuit de Bolivie, pourrait se retrouver dans quelques heures, non loin du fort militaire de Montluc à Lyon, à l'endroit même où, il y a 40 ans de cela, il avait fait incarcérer des milliers de personnes, éliminer et déporter beaucoup d'autres, et tuer Jean Moulin. Et oui, l'histoire s'est brusquement accélérée En quelques jours, cet homme que l'on disait intouchable et qui avait réussi à fuir les justices du monde entier en se réfugiant un jour au Pérou, un jour au Brésil et puis depuis assez longtemps en Bolivie, cet homme va donc être livré à ses juges et contribuer à faire remonter en nous de bien noirs souvenirs.
Ces portes qui se referment sur Barbie, c'est pour l'ancien criminel de guerre nazi la fin d'une longue cavale qui aura duré 31 ans. 2h55 GMT ce matin, le gouvernement bolivien décide d'expulser Klaus Barbie. Après sa sortie de la prison centrale de San Pedro, il est conduit directement sous bonne escorte à l'aéroport El Alto de La Paz.
Mais du coup, Lise, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est déroulé le procès ?
Alors, le procès qui s'ouvre en 1987 est historique. Klaus Barbie est jugé pour crime contre l'humanité, une qualification juridique née lors du tribunal de Nuremberg en 1945 et devenue imprescriptible en 1965. C'est une première en France. La justice ne se contente plus de punir. Elle participe à la construction d'une mémoire nationale et internationale. Le procès, intégralement filmé, donne lieu à 145 heures de débat et attire près de 900 journalistes, témoignant de son importance exceptionnelle. Dans la cour d'assises du Rhône, au palais de justice de Lyon, le procès s'ouvre sous la présidence d'André Sardini. Avocats, magistrats, journalistes et témoins se pressent dans la salle. Jour après jour, des survivants et des proches de victimes prennent la parole. Tous acceptent de revenir sur les souvenirs les plus douloureux, de revivre la Shoah afin de faire entendre la vérité. Les 15 et 18 mai sont consacrés à l'examen des charges. Puis viennent les auditions des victimes. Klaus Barbie est contraint de comparaître à plusieurs reprises, notamment les 26 mai et 5 juin. Le procès frôle même le drame lorsqu'un homme, Christian Didier, tente d'assassiner l'accusé dans le mois de mai, sans y parvenir. Après plusieurs semaines d'audience, le verdict tombe dans la nuit du 4 juillet 1987, à minuit 40. Klaus Barbie est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Madame, monsieur, bonsoir. Les jurés de Lyon devaient répondre à 341 questions. Ils ont répondu oui à 340 de ces questions, reconnaissant Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité. Ils ont répondu non à la dernière question, pas de circonstances atténuantes pour l'accusé. Il était 1h20 la nuit dernière lorsque Klaus Barbie apprenait ainsi du président Sardini qu'il était condamné à la réclusion à perpétuité. C'était la fin d'un procès de 52 jours, un procès évidemment historique, qui se concluait sur une journée très lourde.
Je vous demande qu'avis Barbie soit reclus. Les 9 jurés de la cour d'assises du Rhône et les 3 magistrats professionnels ont suivi les réquisitions du procureur général. Aucune circonstance atténuante n'ont été retenues. Barbie finira donc ses jours en prison. Ainsi, on a décidé hier soir, le jury populaire, après 6h30, de délibérer.
Et c'est quoi l'objectif ?
Eh bien, au-delà de ça, de cette sanction judiciaire, ce procès, il a pour objectif essentiel de donner la parole aux victimes et à leurs proches. Les juges espèrent offrir aux survivants, ainsi qu'à leurs descendants, une reconnaissance officielle des souffrances subies. Ainsi, de nombreux témoignages sont écoutés. Dès 1985, le procès apparaît comme une source majeure pour la constitution d'archives historiques de la justice. Plus de 40 ans après la Seconde Guerre mondiale, le procès du boucher de Lyon ravive la mémoire collective et libère la parole. Les témoignages des 106 témoins font ressurgir des souvenirs longtemps enfouis et interpellent les jeunes générations. Il marque une étape décisive dans la construction de la mémoire de la Shoah en France.
Et donc on peut ajouter que l'instruction aura duré près de 2 ans et demi, de février 1983 à octobre 1985, le temps nécessaire pour rassembler témoignages et preuves, 40 ans après les faits. Le tribunal retient notamment sa responsabilité dans la rafle de l'Union Générale des Israélites de France, rue Sainte-Catherine à Lyon, dans la déportation des enfants d'Izieux le 6 avril 1944, ainsi que dans la déportation de près de 650 personnes par le dernier train quittant Lyon le 11 août 1944. Il est également accusé de la mort sous la torture du professeur Marcel Gampel, juif et résistant, et de la déportation de dizaines de juifs et de résistants arrêtés individuellement. De nombreux témoignages sont encore connus aujourd'hui, notamment ceux que nous allons écouter tout de suite.
Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant, mais elles n'en sont pas moindres. C'était celle qu'on infligeait à une gosse de 13 ans et devant ses parents. Il arrivait, avec son sourire mince, comme ça, comme une lame de couteau. Il me posait la question et il me frappait. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade.
La façon de regarder cet homme me rappelle étrangement ce Barbie que j'ai connu peu de temps, il y a 30 ans.
À 13 ans, on se souvient très bien d'un regard.
Mais concrètement, du coup, c'est quoi la réaction de Barbie face à ce procès ?
Face aux accusations, Klaus Barbie nie. Il affirme ne se souvenir de rien, conteste les faits de torture et prétend ignorer le sort réservé aux déportés. Il prononcera ces phrases glaçant les victimes.
Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas Monseigneur Moulin.
Son avocat, Maître Jacques Verger, adopte une stratégie de rupture. Il évoque les crimes de la France en Algérie et la collaboration française afin de tenter de délégitimer le procès et de diviser l'opinion. Klaus Barbie va jusqu'à se dire détenu illégalement en France. Malgré cela, la condamnation est sans appel. Klaus Barbie est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l'humanité.
Ainsi, la médiatisation exceptionnelle du procès brise également le silence qui entourait la collaboration française et la responsabilité de certains Français dans la persécution des Juifs et des résistants. Les 145 heures d'audience conservées à l'Institut National de l'Audiovisuel deviennent un outil essentiel du devoir de mémoire. Leur diffusion, longtemps limitée, commence au début des années 2000, notamment sur la chaîne Histoire. Le 8 avril 2025, un documentaire en trois parties, Le procès de Klaus Barbie, est diffusé sur France 2. Il reprend de nombreux extraits des audiences et des témoignages d'acteurs d'époque, avocats, magistrats et journalistes. À cela s'ajoutent les 197 dessins d'audience réalisés par Jean-Claude Boer pour Antenne 2, aujourd'hui visibles en ligne, preuve d'une mémoire toujours vivante. Comme le résume le procureur général Pierre Truche lors de la 34e audience, personne n'est sorti du procès Barbie comme il y est entré. Une phrase qui souligne l'impact profond de ce procès sur la société française.
Ce procès, il est à la fois pour nos contemporains, il est à la fois aussi pour ceux qui, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, auront à se rappeler ce qu'a été l'occupation et ses atrocités.
Le procès de Barbie, au-delà du judiciaire, prend alors une dimension internationale. Il interroge le rôle des grandes puissances dans la post-guerre. Comment des États ont parfois protégé des criminels pour des raisons politiques ? Et quelle responsabilité morale leur incombe ? La guerre froide a donc eu pour effet d'allonger l'impunité de certains nazis, et le procès de 1987 devient une manière pour la France et la communauté internationale de rappeler que le crime contre l'humanité ne connaît pas de délai d'expiration, malgré les jeux d'intérêt géopolitiques.
La notion de crime contre l'humanité n'est pas encore complètement comprise par tout le monde, qu'il faut qu'elle soit mieux comprise, que c'est un crime supranational, un crime dont l'ensemble des nations civilisées sont responsables.
Pour terminer, d'autres procès pour la mémoire suivront, notamment ceux de Paul Touvier en 1992 et de Maurice Papon en 1998. Ils rappellent la construction d'une mémoire collective, demeure un processus long, complexe et essentiel pour les sociétés d'après-guerre. Dans cette quête de vérité, le rôle de la justice, de la presse et des médias s'avère central pour juger, raconter, et transmettre l'histoire de l'un des criminels les plus redoutables du XXe siècle.
C'était Passeur de mémoire avec Lise et Zoé.